LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
TDC, une révolution. Et ça pourrait être une révolution du plaisir, du désir, de solidarité, d'amour, de communauté. Ça le devient déjà sans doute. Mais ça pourrait l'être encore plus.
La Flèche d'Or, Paris.
Pour moi, c'est pas une identité, c'est pas genre... Mon moi intérieur, c'est ce que je partage avec les autres, c'est des relations, c'est avant tout ça, enfin, être PD quoi. En fait, grave, la PDité c'est un truc révolutionnaire, c'est profondément du patriarcal et c'est avec ça qu'on va avancer quoi, je trouve. Et qu'on va un peu mettre les deux pieds dans le plat et dire bah ok, fuck, en fait on est PD, on va pas être autre chose et c'est super cool et on peut faire plein de trucs.
Pour moi, PD c'est d'abord la violence, je sais pas, les insultes, ça fait 15 ans qu'on essaye de faire des trucs et s'organiser. Et ça marche pas parce que c'est un mot qui n'existe pas collectivement quoi.
Et qu'est-ce que tu aimerais en faire de ce mot PD?
Un truc révolutionnaire en vrai. Enfin, en vrai, c'est la seule issue pour faire chuter le patriarcat, c'est la pédalerie.
PD, ça veut dire être libre. Ça veut dire aimer, ça veut dire... non, on sera pas des mecs, désolé. Non, on sera pas des patriarches, on sera des vieilles tafioles et putain fiers de l'être, quoi. Donc, franchement, PD, maintenant, c'est un mot que j'ai envie de me tatouer sur le cul. C'est un truc que je porte dans mon cœur, dans mon âme, dans mes os. Je vois bien, tu vois, au-dessus de Paris, un peu comme Hollywood. Tu vois, t'as les lettres en gros PD. Ou une sorte de Gotham City dans le soir, dans la nuit. Une sorte de mot qui traîne dans les étoiles et que tous les gens ils voient comme ça. Et qui regardent et qui fait putain comme s'il y a Batman, tu vois. PD existe. Hein.
PD, réinventer le monde. Un documentaire de Camille Desombre. Réalisé par Gilles Blanchard. Épisode 4, écrire PD au pluriel. Comment refaire corps au collectif? Depuis une dizaine d'années, la communauté gay fait face à un nouveau défi. Le chemsex, consommation de drogue au contexte sexuel. La pratique, qui peut mener à de fortes addictions jusqu'à la désocialisation, cause parfois des morts par surdose ou suicide. La solitude est un facteur aggravant. À Paris, au SPOT, centre de santé sexuelle de aide spécialisé dans l'accueil des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mon ami Tim Madescler, séropos depuis 83, ancien journaliste, œuvre à l'accompagnement des chemsexeurs en difficulté.
Le chemsex, c'est une espèce de machine qui se met en route et qui... pousse les participants à rechercher encore et toujours une situation d'intimité, de sensation, de plaisir, encore plus intense. Et pour moi, il y a aussi un aspect, ça s'inscrit dans une sorte d'idéologie de ce que doit être la vie gay. Il faut atteindre un standard de réalisation personnelle et sociale assez fort. Il faut que cela se fasse dans l'acceptation, mais en même temps dans la contestation. Il faut que ce soit original, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit utile. En même temps, il faut que ce soit. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'exigences autour de ce que doit être le gay. Et il doit avoir aussi une vie sexuelle, puisque la sexualité chez les gays est un mode relationnel important. Donc en fait, ça fait une espèce d'ensemble de contraintes très fortes qui pèsent sur la personne, qui s'ajoutent aux contraintes de la société en général, aussi bien de l'homophobie, mais aussi de la société tout court. Et prendre des drogues dans un certain contexte, c'est vécu comme une sorte de clé pour accéder à une sexualité, à un monde gay idéal, hein, qui est fait de plaisir et de rencontres très agréables. Voilà, je prends cette potion presque magique et j'accède à un monde idéal et pour lequel je me bats depuis que j'ai 15 ans.
Quel peut être le lien entre le chemsex et la notion d'utopie?
Alors là, vous allez me chercher sur quelque chose sur lequel je travaille. Ce qu'on peut appeler la culture gay, spécifiquement, ça apparaît dans nos sociétés à la fin des années 60. Enfin, c'est tout ce qu'on appelle l'ère post-Stonewall. Et ça repose effectivement sur l'apparition de communautés dans les centres urbains, la visibilité, la gay pride, une certaine sous-culture ou subculture qui intègre aussi d'ailleurs beaucoup la fête, la sexualité comme vecteur de socialisation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais grosso modo, il y a une sorte d'idéal gay. Tout ça s'élabore petit à petit, mais une littérature, le cinéma, l'art, la musique énormément, évidemment. La musique pop joue un rôle fondamental là-dedans. Enfin, tout ça construit une espèce d'image du gay qui, individu postmoderne, progressiste de temps en temps, mais quelquefois très conservateur aussi, ou parfois quelquefois révolutionnaire. Je pense que c'est moins ça. Mais en tout cas, l'idée que on se réalise soi-même et qu'on peut se réaliser soi-même à travers une communauté. Et ça, paradoxalement, ça résiste au sida. C'est-à-dire que cet idéal gay, il survit, il se maintient dans la crise du sida, voire d'une certaine manière, je trouve que justement au tournant des trithérapies, quand on a trouvé cette issue spécifique à cette population-là, ça l'a renforcé. Donc on a une période autour des années 2000 qui me semble très caractéristique, c'est qu'on a l'impression que tout est gagné. Les droits ont avancé, on peut pas se marier encore, mais ça va venir. On parle pas trop des enfants, parce que chez les gays, parler des enfants, c'est toujours très compliqué. Le sida peut être vaincu. Il y a des drogues merveilleuses qui arrivent. La musique n'a jamais été aussi dynamique. Et on a encore une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc en fait, en 2000, grosso modo, la monde gay, j'aime bien féminiser parce que, voilà, pourrait être une sorte de modèle d'avenir. Et je pense que beaucoup de gens y croient très fortement. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a dans cet aspect de la monde gay une sorte d'utopie, dans la mesure où on croit vraiment qu'on va accéder à quelque chose de mieux. Ça se heurte évidemment à une énorme réalité. De la même façon que dans les années 70, nos aînés ont été déçus, ont été lessivés par l'échec des contestations de l'époque, je pense que dans les années 2000-2010, nous subissons ça aussi, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte, si on est un peu lucide, que nous ne trouvons pas notre place dans cet idéal inatteignable, et pas forcément souhaitable d'ailleurs, nous réalisons qu'il n'est pas si souhaitable que ça, et par ailleurs, la place que nous pouvons occuper en dehors de cette utopie ou de cet idéal, elle est très contraignante, elle n'est pas du tout facile. La vie sociale est chiante, l'entreprise c'est relou, travailler c'est pénible, on subit beaucoup de stress, le réchauffement climatique s'accélère, les guerres sont partout, enfin ça marche pas objectivement, il y a quand même une grosse panne. Si t'ajoutes à ça qu'on continue quand même à subir les stigmates et les oppressions de part et d'autre, genre la manif pour tous mais d'autres choses, l'utopie elle a un peu une sale gueule quoi.
Est-ce que le chemsex, il permet d'accéder à une forme d'utopie au moins temporaire ?
Non. Non, non. Et alors en plus, moi je trouve que, de ce que je vois, le chemsex, au contraire, renvoie très très vite à la basse réalité du monde matériel. C'est-à-dire que ça a des conséquences sur le mode de vie et sur tous les aspects de la vie extrêmement rapide. Je vois beaucoup de jeunes hommes et de moins jeunes d'ailleurs, aussi des gens de mon âge, qui perdent pied. C'est-à-dire que ils sont incapables de contrôler leur existence et ils partent dans une dérive qui est quelquefois très dure à voir, avec des séquelles physiques, morales, psychologiques énormément, et sociales, parce qu'ils y perdent tout. Mais après, c'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses-là. Oui, quand ça part en couille, ça part en couille. Je remarque que dans beaucoup de chemsexeurs que je vois, c'est une forme de refus de jouer le jeu qu'on attend d'eux. Le chemsex leur permet de se mettre dans une position de refus complet de l'entreprise, du travail, de la vie en social. Il y a un espèce de truc de non, je ne veux pas participer à ça. Et c'est compliqué parce que dans un sens on les comprend énormément, donc on a envie de les féliciter d'avoir finalement cette capacité à dire non à un truc qui les emmerde et contre lequel ils sont. Mais en même temps, il faut déplorer que ça se passe par ce biais-là, c'est-à-dire que en même temps qu'ils refusent, ils ne se mettent pas dans les collectifs ou dans des actions qui pourraient agir sur la transformation. Donc il y a une force de contestation intériorisée, mais qui n'aboutit pas à quelque chose de créatif.
J'ai les couilles vides et je commande une autre bière. Mon sperme est parti en fumée dans le siphon des eaux usées. C'est pas si dur de voir le monde en face. Libéré de la mollesse de l'amour médiocre, je laisse brûler le marshmallow au-dessus du feu. Ça ressemble à du plastique. j'écris PD sur la condensation de mon verre de bière. Homo, c'est pas un mot de passe. Homo, c'est pas une réponse toute faite. Homo, c'est enculé. C'est fils de pute. Homo, c'est tapette. Homo, c'est jamais à ta botte. Homo, c'est les armes à la main.
Votre roman 28 jours, il parle beaucoup de solitude politique. Et on a l'impression que c'est une quête de quelqu'un qui a l'impression d'être le dernier des PD et qui cherche des camarades ou des frères de lutte. Qu'est-ce qui vous déçoit dans la culture gay contemporaine? Pourquoi ça vous va pas trop?
C'est pas que ça me va pas, c'est qu'en fait, je vois pas comment je peux m'épanouir dans l'idée de faire ce qu'on me dit. En me disant, mais en fait, là, t'es homo, mais en fait, tu peux vivre comme tes parents, tout va bien. Moi, c'est une espèce de repoussoir absolu d'imaginer que on aurait fait et vécu tout ce qu'on a vécu pour que notre devenir de nos quotidiens soit, en fait, travail, famille, patrie.
Bigora, écrivain.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi on a autant galéré, autant souffert et autant travaillé collectivement pour imaginer d'autres devenirs pour que ça finisse en sushi Netflix. Après, je critique pas, c'est juste, moi, c'est pas ce qui me donne envie. Après, moi, je pense que j'ai un rapport très niqué avec la question du couple, par exemple. Pour moi, le couple et la famille, c'est clairement un des éléments fondateurs du capitalisme contemporain. Enfin, c'est la maison individuelle, c'est le travail, c'est la famille, c'est cet égoïsme-là qui fait que, de toute façon, si on veut passer par des dynamiques politiques plus larges, en tout cas émancipatrices, donc communistes ou socialistes à minima, en fait, on est obligé de se détacher de la question du couple et de la privatisation d'un autre, ou en tout cas de se faire croire que parce que l'autre est présent dans sa vie de manière si exclusive qu'on n'a plus besoin de l'autre, du reste de la société ou du collectif.
Pourquoi le mouvement PD en France, il paraît si faible à l'heure actuelle?
C'est pas qu'il est faible, c'est qu'en fait, il trouve pas son orientation politique. Je pense qu'il y a beaucoup de PD pédales, ou de gays ou d'homo, qui ont des consciences politiques, ont des désirs d'organisation collective, ont sans doute des désirs de participer au changement social. Mais je pense que les PD, on n'a pas vraiment de projet politique qui sous-tend notre identité, comme certaines ont le féminisme ou je sais pas. Nous, on n'a pas un espèce de genre étendard politique ou conception politique sur laquelle on pourrait se raccrocher et en fait dépasser nos propres identités. Quand on ne croit pas son potentiel de force et d'action politique, et comment on peut infléchir sur une culture qui nous semble nulle ou dysfonctionnelle, en fait, c'est difficile en fait, de se prendre comme sujet individuel et collectif pour agir. Et après, je pense que sida, traumatisme du VIH, enfin, il y a tous ces trucs-là aussi, gros consumérisme et, je sais pas, le sexe, en pensant que c'est bon, on peut baiser tout en étant protégé par l'État, bah, ça fait qu'en fait, on n'a plus rien à demander, puisque ce serait le Graal de ce qu'on est, puisqu'en fait, on est quand même hyper réduit en tant que PD à t'aimes faire la fête, t'aimes t'acheter des chaussures un peu à la mode et tu baises. Et si en fait ce trio, cette triade d'accomplissements sont remplis, t'as plus rien à demander à la société. C'est aussi ce truc de, tu vois, de peut-être là où j'ai un côté un peu dépassé, c'est de croire qu'en fait, nous en tant que PD, on a d'autres besoins d'accomplissement de soi, de comprendre quel rôle on a à jouer socialement et politiquement.
Est-ce que vous avez l'impression que les PD ont du mal à faire collectif et faire communautaire?
Je pense que en période de crise, ils ont assez plutôt réussi à essayer de se coordonner ensemble. Enfin là, je reparle du VIH et tout. Il faudrait peut-être réussir à renommer une crise qu'on est en train de vivre qui permettrait justement que la question de la création collective ou de l'organisation collective puisse devenir une nécessité. Après, il y a ce truc très bizarre auquel je réfléchis, c'est dans les littératures, dans les films, ou même entre nous, les PD, elles sont pas tendres les unes avec les autres. Elles sont même assez mauvaises. C'est un truc de queen ou de compétition ou de ce qui nous reste peut-être de masculinité dont on n'arrive pas à se défaire. En tout cas, je pense qu'il y a un problème de l'entre-nous. Par exemple, que la sororité arrive vraiment à réparer. Du coup, ça, je pense, c'est intéressant de se dire à quel moment on va arrêter d'être méchantes les unes avec les autres. Et en même temps, c'est ce qui fait un peu nos mécanismes de défense, quoi.
Y que se entere la ultraderecha que puebla en el Congreso y en los medios de comunicación, que vamos a por ellas, que ya está bien, basta de esas persecuciones, nos hemos cansado y tenemos muchísima rabia y vamos a atacaros con fuego, con pluma y con purpurina.
En juillet 2021, la mort de Samuel Huise, tué lors d'un passage à tabac sous les cris de PD de merde, secoue l'ensemble de l'Espagne, les militants gays étant soutenus par les réseaux féministes contre les féminicides. Dans la capitale, c'est le Movimiento Marica de Madrid, un groupe de pédales antifascistes et autonomes, qui organise un rassemblement pour dénoncer ce meurtre. Subjugué par cet exemple, j'ai rencontré Turi Cantero, militant PD et syndicaliste qui vivait à Madrid à l'époque.
Marica, ça veut dire donc PD, pédale, c'est ça? C'est l'injure fréquente en espagnol.
Ouais, tout à fait, Marica, c'est comme PD, ouais. C'était une injure et ça a été réapproprié, réutilisé par les PD, justement. J'en entendais parler, donc je me disais, super, il y a un espace court. Et en plus, là, cette fois, c'est un espace entre PD, alors que j'étais habitué aux espaces mixtes, c'est-à-dire avec des personnes LGBT. Et donc ça m'intriguait, je voulais les rejoindre. On a fait pas mal d'actions. On a organisé une marche pour la journée mondiale de lutte contre le VIH. C'était un peu une marche un peu historique, entre guillemets, parce que ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de marche dans la capitale de l'État espagnol sur cette question-là. On faisait des actions aussi pour défendre les centres de dépistage. Il y a un centre là-bas, le Sandoval, il n'y en a qu'un. Et donc on luttait là-dessus pour le maintenir et en avoir d'autres. On faisait aussi des actions de soutien, du coup, dans le quartier à la pièce de collectif de personnes sans papiers. Et il y a eu aussi, pendant que j'étais là-bas, à l'été, donc, juillet 2021, un jeune PD, Samuel Luis, qui a été assassiné en sortant d'une boîte, c'était en Galice, au cri de PD de merde. Et donc directement, on s'est dit qu'on devait appeler à faire une manif à Madrid, et ça a été très très suivi. Tellement suivi qu'après on a eu pas plein de passages dans les médias, enfin ça a pris un peu une autre envergure. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était que c'était la première fois que j'étais dans un espace qui se disait PD. Et du coup, le fait d'avoir cet espace-là, ça permettait de parler de ça, d'apporter un autre discours sur l'identité PD et donc aussi l'homophobie, en disant que c'est pas parce qu'on est dans les années 2020 et qu'on a l'impression que on voit des drapeaux LGBT partout à Madrid, la Pride est énorme, que tout va bien. Et ça permettait de dire l'homophobie est toujours là, elle est là au travail, elle est là avec l'Église, surtout en Espagne, l'État, la police. Voilà, pour moi, c'était vraiment important de voir aussi que des collectifs PD, ça permet de construire un autre discours que le discours dominant sur les PD, quoi. Et ça permettait aussi, mais j'ai l'impression que c'est pas allé aussi loin que ce que je voulais, de aussi réfléchir pas seulement aux problèmes que la société nous pose, mais aussi aux problèmes que nous on peut générer, notamment sur la blanchité, le fait que il y a des PD blancs, il y a des PD non blancs, et que c'est pas parce qu'on est PD que on a rien à déconstruire, on a rien à réfléchir, à critiquer sur nous-mêmes, quoi.
De retour en France, vous avez eu envie d'importer un peu ce concept?
Dès que je suis rentré en France, j'étais un peu un illuminé de la question PD. Et j'avais envie de refaire la même chose à Paris. En France, on a rarement des manifestations quand des PD se font agresser, tuer. Donc s'il n'y a pas de collectif, ça rend compliqué ça. Le PD le plus médiatique aujourd'hui, enfin le gay le plus médiatique, c'est le Premier ministre. Ça montre quand même clairement qu'on a besoin d'organisations qui portent un autre discours sur ce que c'est qu'être gay, ce que c'est qu'être PD. Autant en France, on voit qu'il y a et là en ce moment, il y a de plus en plus de textes décrits sur l'identité PD, il y a des traductions de textes PD d'autres pays, enfin de volonté de comprendre et de théoriser un peu l'identité PD, et ça c'est très bien, mais j'ai l'impression que quand il s'agit de s'organiser, de lancer une première AG, de relancer une première réunion, là ça bute un peu.
Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs non mix PD en France, j'en connais que 4. Et je me demandais s'il y avait aussi un plaisir particulier à se retrouver entre pédales.
Oui.
Et à s'organiser entre pédales.
Il y a une vieille tante, une fois, qui m'a dit qu'il ne faut jamais se demander ce qu'on apporte au collectif, aux associations, etc. Mais ce qu'on vient y chercher. Et clairement, c'est super d'organiser des soirées de soutien, d'aller chercher de l'argent pour les grévistes, etc. Mais moi, la première raison pour laquelle je vais à la TIA, c'est aussi parce que j'y prends trop de plaisir.
Oui, c'est pour toi, Dimitri.
Collectif La Théière.
Ouais, c'est juste parce que j'y prends plein de plaisir. Alors, on vient pas juste pour régler ses problèmes et avoir des amis, mais c'est aussi pour ça, quoi. On n'est pas uniquement altruiste et vouloir organiser des trucs pour avoir de l'argent pour payer la revue ou pour les grévistes, quoi.
Sur cette histoire de plaisir, par exemple, pour moi, le lendemain de la fête où on va faire le ménage et qu'on va manger ensemble est aussi joyeux que la fête. Enfin, je crois que cette non-mixité-là fait ça parce que tout d'un coup, on se retrouve à aller dans des endroits qu'on peut-être qu'on n'irait pas tout seul, ou quand on se promène ensemble aussi, on est aussi un groupe de pédales, et du coup, bah, les réactions du monde et ce que nous, on vit à l'intérieur, et ben, elles répondent à ça, et du coup, je trouve que ça nous met plein de force à plein d'endroits. Et aussi, je pense que moi, j'ai toujours aimé les temps non mixtes, transpédéguines, tout ça, parce que c'était des espaces où tout d'un coup, on parle de tout ce qui n'est pas l'hétérosexualité, et tout d'un coup, parler entre PD, c'est aussi parler que de ce qui est PD, et de pas avoir l'impression d'empêcher d'autres paroles d'avoir lieu. Parce que des fois, en fait, c'est hyper important pour nous de parler de nos chlamydia et nos syphilis, parler de cul, parler de santé sexuelle, parler de la PrEP, le rapport, je sais pas, au désir pour la virilité ou au contraire le refus de la virilité. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'enjeux qui traversent peut-être plus spécifiquement le groupe que je fréquente ici à Lille et encore une fois qui pique pas la parole à d'autres quand on aborde ces sujets-là et sur lesquels on a le temps de s'étaler et on a le droit d'en rire et on a le droit. Enfin voilà, et ça pour moi c'est ça que permet ce groupe-là.
J'ai ramené une revue que vous connaissez bien. Et je voulais vous demander...
Vous pouvez nous me les décrire ? J'aime vachement celui-là.
Ouais, étonnamment, comme beaucoup de personnes.
Ouais, c'est un peu...
Du coup, c'est le numéro 3 sur les efféminités.
C'est un numéro sur la thématique de la féminité et de comment on se construit en tant que PD avec le fait d'être perçu comme féminin ou non et comment ça vient impacter nos trajectoires de vie.
Après, on peut avancer dedans, on peut regarder...
Ouais. Je vais bien parler de cette rubrique, c'est une rubrique qui s'appelle Fact Stories, qui parle de l'histoire et des mémoires des luttes PD, et qui revient dans presque tous les numéros.
Raphaël.
Et qui, moi, me tient à cœur, parce que les PD d'aujourd'hui sont tributaires des PD d'hier, et qu'on se construit toujours sur des luttes passées, victorieuses ou non, mais que, en tout cas, et que c'est important de connaître notre histoire. PD en revue, c'est une revue qui est née en 2018, donc maintenant qui va avoir 6 ans. Une revue fait par et pour des PD, avec une définition de ce qu'est PD dans une assez floue et assez large pour que toutes les personnes qui se sentent concernées par ce terme puissent s'en saisir. C'est une revue qui cherche à faire vivre les cultures et les pensées PD de manière anticapitaliste, autogérée.
Bah, moi, ma rencontre avec PD La Revue est un peu particulière parce que je venais d'être gay, on va dire, quand je suis tombée sur PD La Revue.
Vanna.
Avant, j'étais déjà militant dans des trucs, on va dire, extrême-gauche. Et après, j'ai changé de sexe, je suis devenue gay. Et du coup, en fait, le problème c'est que j'avais à ce moment-là, c'est que bah, autour de moi, je connaissais pas de personnes trans. J'avais perdu le contact avec les personnes qui étaient gays ou lesbiennes. Et du coup, c'était difficile de trouver des vécus qui allaient faire écho à quelque chose que je vivais, je trouvais pas dans les médias mainstream, on va dire. Et en fait, là, vu que c'était des personnes trans qui écrivaient et qui, en fait, déjà n'étaient pas réduits à le fait d'être seulement trans, mais qui pouvaient, en fait, parler de plein d'autres problématiques que celles qui n'avaient pas la place dans les médias classiques, bah, en fait, ça m'a grave aidé, ne serait-ce que, voilà, sur mes questionnements personnels. Ce qui est cool aussi, c'est effectivement que vu qu'on parle du vécu des gens et que, en fait, ces gens veulent faire du politique, évidemment, avec leur vécu, mais qui vont avoir une approche qui n'est pas du tout académique. Et ça permet de créer du lien d'une façon différente. Ça change un peu des trucs théoriques où on ne comprend rien.
Moi, je trouve votre collectif super intéressant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs en non-mixité PD en France. Ou d'ailleurs même qui ont le mot PD dans leur nom, ça, c'est intéressant aussi. Et je me demandais justement pourquoi ce choix du mot PD plus que queer, par exemple. Et pourquoi cette envie de faire de non-mixité autour du mot PD ?
J'ai l'impression qu'il y avait un truc de assez basique de PD, retournement du stigmate, retournement de l'insulte, qui fonctionne toujours, qui, pour moi, est beaucoup moins opérant dans le terme queer, parce qu'en fait, dans un cadre français, juste, c'est pas une insulte. Ou en tout cas, il n'y a pas la force de ce stigmate-là. Et là, je pense que je vais répondre personnellement. J'ai l'impression que dans certains espaces queer, il y en a pas mal qui se construisent avec des mixités sans mec cis, et donc du coup qui se retrouvent à exclure de ces espaces-là les PD. Et donc du coup, il y a aussi un intérêt à construire et à faire entendre ces voix-là, qui sont des voix singulières.
En tant que mec trans gay, moi, dans ma transition, j'ai perdu plein d'amis en transitionnant. Et du coup, le militantisme, je pense que ça m'a aussi permis de me rapprocher de gens, parce que c'est vrai que en faisant des réunions super longues et en se parlant tout le temps, ça nous rapproche. Voilà.
Pour les retraites et 30 coups de pédale, pour la grève générale et 30 coups de tapette. En grève pour les retraites et 30 coups de pédale, pour la grève générale et 30 coups de tapette.
Remettre les luttes sociales au cœur des militantismes LGBTI et rendre visibles les gays, lesbiennes et trans au sein du mouvement des travailleurs, c'est l'une des missions que se sont données les Invertis, un collectif mixte trans-pédéguin né en 2022, qui s'est illustré par l'organisation de Pink Bloc lors de la réforme des retraites. Avec ses camarades, Tariq Safraoui, militant anticapitaliste et PD de 30 ans, interroge les impacts de cette réforme et de la casse sociale en cours sur les populations LGBTI et pour nous, plus particulièrement les PD.
La réforme des retraites a un impact sur les PD parce qu'on est des travailleurs. Et ça, je pense que c'est un point important à rappeler qui ne va pas de soi. C'est-à-dire que quand des gens dans la société pensent à un homosexuel, très souvent, ils imaginent une image d'un gay blanc du Marais qui est dans les lieux de pouvoir, dans la culture, qui est friqué, etc. Or, nous, ce qu'on rappelle déjà, le premier point, c'est que les homosexuels, les gays aussi, sont majoritairement issus du prolétariat. Donc déjà, ça nous touche normalement, j'ai envie de dire, comme les autres. C'est fou de devoir le dire, mais en fait, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quand même de se dire, on en a discuté, qui sont les vieux PD qui arrivent à la retraite au moment de cette réforme? C'est des carrières hachées, c'est des conditions de travail qui ont été très, très, très compliquées. La majorité ont vécu les années SIDA, donc les vieux PD qu'on avait, il y en avait une bonne partie qui avait dû subir ça. Et ça, sur ça, il y a un truc qui est assez édifiant, selon moi. Ça fait une dizaine d'années que je suis militant, même un peu plus. Ça fait longtemps que je suis militant précisément sur les questions LGBT et à Paris. Et en fait, pour la première fois pendant la mobilisation sur les retraites, j'ai été diffuser des tracts et discuter avec les gens dans le Marais, dans notre quartier, sur une question qui nous concerne. Et on s'attendait à avoir un accueil un peu mitigé, parce qu'on a tous discours, en particulier dans les milieux militants, sur le Marais, c'est le lieu des gays blancs, cis, bababababa. Et on s'est rendu compte que au contraire, l'accueil était plutôt bon, de personnes qui nous racontaient justement que bravo les jeunes de continuer à militer, parce que nous, on a souffert, on a lutté, on a bataillé, notamment dans les années 90, notamment sur la question du VIH-SIDA, et d'une, aujourd'hui on n'en peut plus, aujourd'hui on laisse la place aux autres, et en fait, on s'est rendu compte que c'est des parcours de vie, et que des gens qui, au premier abord, nous effrayaient, sont en fait beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pensait, quoi.
Slogan Macron, Macron, on t'en cule pas, la sodomie c'est entre amis, c'est en effet un des hymnes du Pink Bloc. Est-ce qu'il y a justement aussi la volonté de confronter une partie des mouvements de gauche à leurs impensées homophobes?
Complètement, comme on le dit nous à chaque fois, c'est que c'est une double dynamique, c'est-à-dire qu'on veut à la fois que le mouvement LGBT prenne en compte les questions sociales, mais on veut aussi que les organisations du monde ouvrier, comme on disait, mais les syndicats, les partis, prennent en compte nos vécus, et de se dire, en fait, quand tu dis Macron enculé, désolé, mais non, en fait. Et là, on le revoit avec le nouveau gouvernement, avec le fait qu'il y a le premier ministre gay au pouvoir, etc. On revoit ressortir une homophobie qu'on ne voyait pas de la part de toute la société, et y compris de notre camp social, du prolétariat, des gens qui nous entourent, de nos parents, de nos proches. Et du coup, le fait de gueuler ce slogan qu'on n'a pas inventé, qu'on avait déjà, moi j'ai déjà chanté en 2016 dans d'autres Pink Blocs, etc., c'était aussi de dire, on déteste Macron, mais aussi on déteste l'homophobie, et qu'en fait, nous, on en a marre d'être le cul entre deux chaises. Nous, on n'a pas à subir des balles perdues à chaque fois, mais de la même façon que pour les femmes, les personnes racisées. Enfin, on fait toujours des rappels sur ça. Donc ça permet de secouer un peu le mouvement ouvrier traditionnel, quoi. Et en fait, pour nous, on se dit également que avec le danger fasciste, on l'appelle comme on veut, mais le danger d'extrême droite, le danger fasciste qui arrive, eh ben, il faut un mouvement antifasciste qui soit large et qui ressemble aux premières personnes concernées par le fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, si le mouvement antifasciste, c'est juste des mecs blancs, hétéros et un peu virilistes, c'est dommage.
Ben là, nous sommes devant le Trocadéro pour la deuxième manifestation contre la loi Darmanin, la loi immigration. Et voilà, nous, en tant que collectif des Invertis, on s'est dit qu'il fallait appeler à tout. L'important, c'est d'être de toutes les initiatives contre cette loi immigration. Et donc, on va faire une manifestation entre Trocadéro et Invalides. Donc voilà, on va marcher dans les quartiers riches pour leur montrer un peu qu'en dehors de leur beau quartier, il existe des gens qui galèrent et que cette loi va les précariser encore plus. Les luttes ne sont pas séparées. Il y a des personnes LGBT qui sont directement concernées par cette réforme Darmanin parce qu'eux sont LGBT et migrants et réfugiés et sans papier.
Je m'appelle Guari, une personne du terrain qui est toujours là pour aider et accompagner les personnes qui sont les plus emmerdées par ces systèmes dans lesquels on vit, et surtout les personnes migrantes, homosexuelles, bisexuelles, masculines.
Est-ce qu'on peut décrire à quel type de précarité font face les exilés en général, mais et aussi les queer exilés?
En disant que les personnes queer migrantes font face déjà à des enjeux d'accès à logement, d'accès à la santé, dans des enjeux d'accès aussi même à des institutions administratives. Par exemple, quand les personnes viennent ici et entament une procédure pour faire la demande d'asile pour des raisons de genre, orientation sexuelle, parce qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine, peut-être sous la peine de mort ou aller en prison, l'OFRA va demander beaucoup de questions qui sont liées à leur pratique et à leur identité aussi. Et c'est là où les gens sont un peu, on va dire, un peu perdus, dans le sens que c'est une manière de regarder la sexualité très, déjà hétérocentrée, mais aussi très occidentocentrée, comme s'il y avait aussi une formule dans laquelle tout le monde doit rentrer dans cette caisse et répondre à tous ces types de questions, qui excluent systématiquement, par exemple, les personnes bisexuelles ou les personnes pansexuelles. Et il faut dire que chaque parcours dans la sexualité des gens, il est tellement différent. Donc, il y a quand même une suspicion, en fait, de leur sexualité. Y être une personne dissidente du sexe, c'est seulement être homosexuel ou être lesbienne.
Et l'incapacité de travailler légalement quand on est sans papier ou en situation de demande d'asile, elle crée de la précarité et elle force à des activités économiques parallèles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus?
La précarité, elle est large. Donc, des exemples concrets, c'est des garçons qui dorment dans la rue. Ce sont des garçons qui n'ont pas où dormir ou pas quoi manger, pas un ticket transport. Et ce sont des personnes aussi qui parfois, en tout cas, ont aussi parfois les VIH et qui n'ont pas l'accès rapidement à la santé. Ce sont des personnes qui se retrouvent parfois très isolées, dues aussi à que dans certaines communautés qui sont installées dans ces pays, il y a quand même aussi parfois des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas dévoiler ou évoquer les personnes queer qu'ils sont. Donc tous ces aspects-là font que les gens s'éloignent et qu'ils vivent de l'isolement. Donc on peut parler aussi de tous les impacts de la santé mentale ou de la santé en général qui peut avoir sur les personnes queer ou sur les personnes dissidentes sexuelles. Et puis, ça se rajoute aussi l'effet de ne pas parler la langue parfois. Donc, ça va mettre toutes ces barrières. Et en termes de l'accès aux outils de prévention diversifiés, c'est l'effet de parfois méconnaître la PrEP ou méconnaître aussi, parfois, ça peut arriver, le préservatif. Et tout ce temps qui passe entre le temps que les personnes arrivent et que les personnes arrivent à accéder aux soins, c'est une fenêtre aussi longue d'exposition au VIH. Et ça a été prouvé dans les tout parcours en 2015 qui a été fait, et après avec des récentes recherches, et des chercheurs continuent à faire sur cela, que les personnes s'infectaient en France, pas à l'extérieur qui venaient infecter en France. Et moi, en tout cas, en étant un acteur du terrain, pendant des années, ça fait des années que je suis là, je vois que les gens cherchent des stratégies aussi pour vivre, et parmi ceux-là, il y a les travailleurs sexuels. les garçons qui font le travail de sexe, ils vivent aussi beaucoup de violences sexuelles, des violences dans tous sens quand ils font le travail de sexe. Il n'y a pas une énorme différence avec les travails sexuels qui font les femmes cis ou les femmes trans.
Un mouvement PD ou HSH qui aurait envie de travailler ces questions-là, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place comme pratique concrète d'entraide ?
Je pense que l'entraide, c'est une chose des plus humaines, en fait, qui devra y aller de soi en étant consciente de la position qu'on occupe dans la société. Et l'entraide, c'est pas simplement quand on appelle aux gens parfois qu'ils disent « oui, j'ai des vêtements chez moi ». Non, en fait, être dans l'entraide, c'est pas donner ce que je n'utilise pas, en fait. L'entraide, ça va beaucoup plus loin. L'entraide, c'est vraiment donner de soi. L'entraide, ce n'est pas donner les temps que je n'utilise plus. L'entraide, c'est vraiment donner ce qui vient de moi, en fait. L'entraide, c'est se mettre aussi à la place de l'autre, accompagner et essayer de que la personne soit capable de sortir de la difficulté. Il faudrait, en fait, y penser à un mouvement vraiment des PD, un mouvement des homosexuels, des bisexuels, qui s'inspire beaucoup des féminismes, qui s'inspire beaucoup de la lutte des femmes trans, qui s'inspire beaucoup des luttes des minorités plus subalternes pour repolitiser nos luttes. Parce que la lutte, c'est beaucoup plus que pénétrer un cul ou que se mettre une bite dans le cul. La lutte va beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'un mouvement PD homosexuel est possible aujourd'hui dans le sens qu'il faut, y se penser aussi, comment se sont pensées les femmes aussi à un moment de leur histoire. Et arrêter d'y penser que nous appartenons aussi à la catégorie de la masculinité hégémonique. Nous ne sommes pas dans la catégorie de la masculinité hégémonique, nous continuons à être des masculins subalternes et nous sommes considérés comme tels. Et y penser qu'on est là-dedans, c'est vraiment se tromper.
Bienvenue. On est à Dijon, au quartier libre des Lentières, à 15 minutes en vélo depuis la gare. C'est un peu au bord de la ville, mais quand même dans la ville. Moi, c'est Micha, je suis une personne non-binaire qui habite au quartier des Lentières et qui s'organise au quartier des Lentières depuis à peu près 4 ans. Avant les années 80, ça a toujours été une zone maraîchère. Comme autour de toutes les villes, il y avait des ceintures maraîchères. C'était un peu la dernière qui restait. Et ça a été du coup le lieu de projet d'urbanisation de la mairie. Et là, il y a eu cette manifestation qui a emmené une occupation d'une petite partie. Et au fur et à mesure du temps, en même temps que la mairie rachetait aux gens leur terre ou leur maison, les militants ici ont occupé les maisons. Il y a eu de plus en plus de monde et de plus en plus d'usagers et usagères, de plus en plus de petits jardins et de plus en plus d'activités. Et pour arriver à ce qui est maintenant et qui continue même de changer en fait.
Et c'est ça qui fait la force de Lentières, c'est un espace du coup qui est indiscipliné par rapport aux autres espaces. Ça regorge en fait, ça bouillonne, ça pullule. Et ça, en fait, les élus, ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils contrôlent rien là-dedans et ça les emmerde. C'est normal parce que les gens, ils se sont ressaisis de leur pouvoir. Moi, c'est Duchesse. Je suis une bourgeoise blanche. J'ai une petite trentaine d'années. Je suis ici depuis un an, donc au Château de l'Angle, qui est un collectif d'habitation. Et on va y aller en passant par le Jardin des Maraîchères. Ça pourrait être chouette. Bah là, c'est le Snack Friche. On arrive. C'est un espace collectif. Voilà, il y a internet, il y a des gens qui se posent. Là, on va passer dans les jardins ouvriers, les jardins d'agrément.
Ah, t'as vu, il y a les premières jonquilles.
C'est trop tôt, non ?
Bah oui. On est quoi ? On est le 2 février, oui. Oh, c'est dingo. Ah, là, les primes verts.
Alors on marche sur des petits sentiers. Un peu partout il y a des potagers en friche et des caravanes, des plantations sous protection.
Ouais, c'est des fils anti-insectes. Le jardin des maraîchères, donc le collectif de maraîchage là, on essaye de pas trop travailler, que les lundis et les jeudis. On essaye de faire du maraîchage un peu vegan quoi. Ça veut dire pas tuer les ravageurs comme les limaces, et aussi on essaie de faire du maraîchage sur sol vivant. Ça veut dire pas trop retourner la terre. Quand tu retournes, si tu laboures, quoi, tu tues plein de micro-organismes qui sont bons pour les plantes et toi, quoi.
Et là, on arrive sur un autre collectif d'habitation.
C'est vachement beau, en fait.
Ouais, ça change un peu du tout au tout. Il y a des chemins dans tous les sens, moi j'adore. On arrive au bout, opposé de là où on est parti, des 8 hectares.
Et là-bas, au-dessus de la forêt, c'est un drapeau arc-en-ciel.
Ouais, c'est la chouchou là-bas. C'est la cantine où on va.
C'est aussi à la chouchou qu'il y a. Donc la cantine qui s'appelle la chouchou, où il y a les apéros PD depuis un an. Et c'est super de pouvoir se retrouver là et de, enfin, d'avoir une sorte de, d'espace entre un nous, quoi, ce nous-là. Et ouais, c'est assez chouette.
De quelle envie ou besoin est né cet apéro PD ?
Au début, il y avait une sorte de... On n'était pas tant à se retrouver dans les espaces féministes. Il y avait beaucoup de meufs cis, quoi. Ce qui, moi, ce qui n'était pas un problème, mais qui était un peu questionnant comme ça, de me dire « Ah, je vois plein de gens sur Grindr, dont certains qui peuvent... » Je les revois en manif et je me dis « Bah, c'est marrant, à un endroit où on pourrait se retrouver et s'organiser ensemble aussi dans ces espaces féministes. » Et donc, je sais pas, moi, genre, vu que je connaissais déjà des gens dans ces espaces féministes, je me sentais pas seul, mais je comprends que tu peux te sentir loin. Bah, si t'es mec cis PD, tu peux avoir une sorte de questionnement et te dire « Ah, en tant que mec cis, t'es pas bienvenu. » C'est pas le cas à Dijon, mais juste l'idée de l'apéro PD, c'était dire « Ok, la prochaine manif féministe ou la prochaine bouffe de soutien ou le prochain, on ira ensemble et tu vas rencontrer les gens et tu vas voir que elles sont super cool, etc. » quoi.
J'ai envie de poser la question « Où sont les PD en fait politisés ?» Parce que oui, il y a des gays à Dijon, mais il y a peu de pédales. Et on en parlait ce matin avec Micha, on est un peu, on est par noyau dans chaque ville, quoi. Mais de là, oui, effectivement, à se revoir pour bosser sur des thématiques communes, il y a encore un long chemin à parcourir, quoi. Et c'est ça qui me manque, moi.
Les luttes climatiques vont devenir de plus en plus centrales dans les années, décennies qui viennent. Et je me demandais à quoi pourrait ressembler une présence de pédales ou de fées dans ces luttes-là.
Moi, je vois des pink blocs qui mêlent en fait l'intime et le politique, qui mêlent l'exubérance à la prise de responsabilité. De la folie à de la rage, de l'amour à de la rage, en fait, vraiment. Où on a des personnes qui jouent aussi sur les images pour mieux s'en défaire. On avait comme, j'ai l'impression, une expertise à ce sujet-là pour détourner des figures politiques, pour détourner des concepts, les rendre moins sérieux si on a besoin de les rendre moins sérieux, de les rendre plus sérieux si on a besoin de les rendre plus sérieux. Quelque chose où on allie de la magie à quelque chose comme la tradition dans des rituels.
Les grands jardins des fées prospèrent. Les fées vénèrent leurs plantes qui poussent et prodiguent de la nourriture en abondance. L'après-midi, elles chantent, scandent et sarclent. Quand le soleil baisse, elles font l'amour entourées de tomates et de soucis sauvages. La nuit, elles dorment lovées autour des concombres, entremêlées dans les haricots ou couvertes de maïs. Quand elles se réveillent dans la fraîcheur du matin, elles caressent les plantes et leur donnent à manger. Et parfois, les fées sont si submergées de passion et d'amour qu'elles s'allongent dans la parcelle de pastèques et se masturbent.
Larry Mitchell, Les pédales et leurs amis entre les révolutions, 1977.
Je m'appelle Marguerin Lelouvier, je fais de la poésie, écrite et sur scène aussi, en musique. Je suis militant au Bras Zéro, qui est une bibliothèque LGBTQI et centre d'archives autogéré à Lyon.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous investissez beaucoup le thème de l'Uchronie. Qu'est-ce que ça vous permet de fabriquer des narrations alternatives ?
Je dirais pas que je fais de la science-fiction, mais c'est vrai que ce motif-là de l'Uchronie, donc de l'histoire réécrite, alternative et des mondes parallèles, elle m'a grave plu. Et quand t'es PD, t'as pu forcément être un peu habité par des questions très fortes du genre « Ah bah si j'avais été une fille, si j'avais été hétéro, à quoi aurait ressemblé ma vie, etc. » Du coup, c'est un peu comme ça des exercices de pensée qu'on se fait un peu toutes et tous. Et j'avais un peu cette image depuis longtemps de des hommes de Néandertal. Et si ils avaient perduré en tant qu'espèce, en tant que civilisation, etc. Et sans dire que la créature de Néandertal était un peu une métaphore du queer ou du PD. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai pensé direct, mais en fait, ça s'est imposé mine de rien. C'était une fiction qui permettait de réfléchir à est-ce qu'on peut organiser la sexualité autrement, est-ce qu'on peut s'organiser en société d'une autre façon, quoi. Et l'Uchronie, c'est en ça qu'elle est hyper puissante, c'est que elle permet de contrer un peu la logique déterministe qui veut qu'une société humaine elle soit dans cette direction comme ça, alors qu'en fait elle pourrait se déployer sous plein de formes, parce que la manière dont on vit aujourd'hui, c'est le résultat aussi des accidents, des imprévus de l'histoire. C'est là aussi où le motif de l'Uchronie et du monde parallèle m'a vachement plu, c'est que il y a tout à faire, c'est notre monde, mais c'est pas tout à fait notre monde. Et s'il n'y avait pas eu l'épidémie du sida, et s'il n'y avait pas eu Freud, tout ça, en fait, tous ces moments-là de notre histoire commune qui a fait que l'homosexualité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que justement, elle est pas, l'homosexualité, c'est pas une donnée biologique invariable. Les personnes qu'on est, l'identité qu'on a choisie, le corps qu'on habite, il est le produit d'une histoire qui est celle de la psychanalyse, de la répression policière, de l'épidémie, du VIH-Sida, etc., etc. Et en fait, si tu déplaces tous ces petits curseurs, tu te rends compte que l'homosexualité et le système sexe-genre, de manière générale, l'ordre sexuel, il aurait pu être différent.
Les hommes de Néandertal se divisaient-ils entre pompeurs et pompés ? Entre lopes ? Entre couilles ? Entre vite couilles ? Les pompeurs de Néandertal avaient-ils un statut social ou religieux particulier ? Leur attribuait-on des fonctions, des privilèges, des facultés, de troisième langue, de seconde vue, de téléportation?
Est-ce que la science-fiction, qui n'est pas un genre littéraire gay très répandu en France, j'ai l'impression, est-ce qu'elle peut nous permettre de trouver des outils de lutte pour imaginer des luttes qui n'existent pas encore dans le présent?
La science-fiction, elle peut peut-être pas tant nous inspirer, peut-être c'est plus du côté des émotions, des sentiments, des façons de relationner. Là, je vois, enfin c'est d'ailleurs en ça que l'homosexualité, je pense que c'est aussi un laboratoire, et que si Donna Haraway, elle a pu dire que le féminisme c'était aux femmes ce que la science-fiction est à la technologie, peut-être que l'homosexualité c'est à la masculinité ce que la science-fiction est à la technologie, c'est-à-dire que peut-être que l'homosexualité masculine, c'est un laboratoire de ce que pourrait être une post-masculinité ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'imaginer des PD dans l'espace ou des PD qui chevauchent des dinosaures, même si c'est des images hyper cool. Mais peut-être que c'est tout simplement dans nos pratiques de vie, là maintenant, que s'inventent des choses qu'on n'avait pas encore imaginées.
Dans votre travail, l'homosexualité, elle est toujours centrale comme une pratique, mais de moins en moins comme une identité. Et je me demandais, est-ce que le futur de l'homosexualité, c'est la fin de l'homosexuel ?
Bah, je pense que le milieu PD est en crise totale, parce qu'on se rend bien compte que l'orientation sexuelle, ça suffit plus à nous relier les uns les autres. Parce que qu'est-ce qui me relie, moi, à Gabriel Attal ? Rien. Et qu'est-ce qui me relie à un camarade antifa hétéro ? Bah tout. Enfin, du coup, en quoi on fait communauté comme ça ? Je trouve ça très 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 puissant, les efforts là qui sont faits en ce moment pour recréer du nous et recréer un semblant d'horizon politique homosexuel masculin. Je trouve ça très chouette. On est tous dans des trajectoires de vie et à des moments de nos vies. Moi là, c'est vrai que j'ai 37 ans et je suis moins communautaire là aujourd'hui, même si j'y ai tiré beaucoup de joie. Après, Mais c'est vrai que l'identité, moi, c'est un concept qui, politiquement, me parle moins. Est-ce qu'on a encore besoin de ça, là, maintenant, tout de suite, vu les catastrophes et et la barbarie totale dans laquelle on vit? Est-ce qu'on ferait pas mieux de s'éclater un peu partout pour trouver plus du lien avec toutes les luttes, quoi? Et là, effectivement, aujourd'hui, je suis dans un lieu où, en fait, on bosse à plein de gens qui ont des goûts, des imaginations différentes. Et moi, ça me nourrit énormément d'être avec des hétéros. Ah, je l'ai dit, j'adore. Il y a des contagions qui s'opèrent, quoi, qui sont très cool. Quand t'as des confrontations comme ça de point de vue, enfin, c'est le truc qu'on évite par excellence, c'est la confrontation, quoi. Et en fait, t'as des camaraderies qui peuvent désamorcer ça aussi complètement. Quand on est tous de gauche, on peut trouver facilement des terrains d'entente, quoi. Le futur de l'homosexualité, c'est l'horizon politique qu'on devrait tous et toutes avoir, quoi. C'est des rapports amoureux et sexuels sans étiquette, quoi, tout simplement. C'est le futur de la sexualité en tant que, enfin, de manière générale. Je pense que on est voué à disparaître, heureusement, et la question, c'est est-ce qu'on est voué à se fondre avec les hétéros? Quand tu rêves de l'abolition d'un ordre et d'un système de nomination, forcément, les hiérarchies et les identités que ce système y produit, elles n'ont plus lieu d'être. Du coup, le futur de l'homosexualité, c'est un monde dans lequel l'homosexualité n'aurait plus lieu d'être.
Et peut-être de rester en prise avec le monde, c'est peut-être ça l'horizon aussi.
Ouais, carrément, ça, mais ça, ouais. Je pense que c'est une question générale qui n'est pas propre au PD, mais bien sûr, on est tous contaminés par une fascisation extrême des rapports sociaux et de nos imaginaires qui sont brutalisés, qui sont déshumanisés. Et l'horizon de lutte, c'est de résister à cette déshumanisation globale de tout l'imaginaire des rapports, de s'accrocher très très fermement à son humanité, de ne pas la perdre de vue et de... Comment on recrée être ensemble, quoi, tout simplement. Et en ça, effectivement, l'idée des utopies positives, oui, on a extrêmement besoin de ça pour résister justement aux pulsions morbides de s'imaginer soit en cage, soit à s'entre-dévorer, quoi. Enfin bref, c'est quoi nos utopies là-dedans?
Hey, oh Pierre, ramène-toi, je te suce le bide!
Pédale Scandale,
à Saint-Étienne, tous les mois,
sur Radio Dio 89.5.
Et sur radiodio.org.
C'est pour mes suceurs.
C'est pour vous, mes suceurs.
C'est pour mes suceurs.
C'est pour qui?
Celle-là, c'est pour mes suceurs.
Ouais, toi aussi, là.
Pour mes Dylan, pour mes Beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen.
Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade.
Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Pédale Scandale. À Pédale Scandale, on considère que lutter, c'est toujours plus que nécessaire. Si on en a la force et la possibilité, on pense notamment qu'il est important de s'emparer de la lutte antifasciste. C'est pourquoi ce soir, on a eu envie de vous proposer une émission qui parle de lutte antifasciste, et de pourquoi et comment, en tant que PD, on doit s'en emparer.
Il n'y a pas vraiment de mouvement spécifiquement PD en France, alors que peut-être il pourrait y avoir besoin de s'exprimer en tant que PD, parfois, justement, sur les questions qui nous concernent, la façon dont elles sont instrumentalisées. Et je me demandais, est-ce que vous aimeriez voir naître un mouvement PD et à quoi vous aimeriez qu'il ressemble?
Ah ouais, j'attends que ça, moi. Après, il faut se bouger pour le créer. Mais ouais, je pense qu'on en a vraiment besoin. Il y a des questions...
PD La Revue, Daniel.
Qu'on a l'impression qu'elles sont réglées, notamment en 2013, le mariage pour tous, ça y est. On a fini, les PD vont très bien maintenant, il n'y a plus aucun problème.
On fait genre que ça va très bien pour les PD, mais en fait...
Raphaël.
Il y a un truc qu'on dit peu souvent, qu'en fait, il y a encore aujourd'hui des PD qui meurent suite à des guet-apens homophobes, et qu'en fait, c'est pas le paradis sur Terre, la France, pour les PD. En fait, il y aurait vraiment besoin d'un mouvement PD pour pouvoir re-questionner toutes ces questions-là, quoi.
Aujourd'hui, on a du mal à faire vraiment communauté, et du coup, on est isolés chacun dans nos coins. On n'arrive pas à se coordonner, quoi. Le fait qu'il nous ait foutu Attal au gouvernement, c'est un symbole, mais en fait, on a des représentations légitimes de l'homosexualité qui sont sages, propres sur elles. Et l'image médiatique qu'on a des homosexuels, c'est des collaborateurs avec le capitalisme et le néolibéralisme. Et c'est, pour les militants, assez déprimant. Et pour les non-militants, ça fige, quoi. Ça empêche de bouger, quoi. C'est peine perdue, quoi.
Ça nous permettrait aussi de répondre au discours ambiant.
Tori Cantero.
Moi, ça commençait un peu à me faire peur, cette idée de... comment ils appellent ça ? Réarmement démographique. Pour le coup, c'est pas l'utopie PD, c'est vraiment la dystopie homophobe. On revient à un monde où les citoyens sont définis par leur capacité à se reproduire, à faire des enfants. Ça fait peur, donc de pouvoir développer un autre discours là-dessus, de pouvoir répondre face à l'extrême droite qui essaye de se faire passer comme la nouvelle place to be des gays, bah rappeler en fait d'où vient l'extrême droite et d'où on vient nous, et qu'on peut pas être dans le même espace. Donc voilà, un espace par et pour les PD, mais je pense aussi que pour moi, des collectifs PD, ça serait apporter aussi un discours pour le reste de la société. On a un autre rapport à la famille, un autre rapport à l'amitié, un autre rapport au travail, un autre rapport à la vie. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent servir aussi les hétéros et les autres lettres des sigles LGBT.
Ça voudrait dire repartir un peu de la base de qu'est-ce qu'on est, nous les PD, et de ce qui nous lie, et quel type de projection politique on pourrait fabriquer avec ce que nous sommes. On a une vision du monde spécifique. Qui est aussi celui d'aimer les kems, en fait, et d'avoir envie de baiser avec, et de les embrasser, d'en prendre soin. Ce qui fait que ça, c'est déjà une vision du monde qui projette, fabrique des ramifications constantes politiques et des conceptualisations politiques permanentes. Mais c'est comme si on voulait juste arrêter au fait que, je suis une bite, et point. Alors qu'en fait, non, je suis une bite, mais ça veut dire plein de choses.
Bigora, écrivain.
Cette bite, tu sais, en fait, elle projette des futurs politiques concrets. C'est... notre manière d'être homme fait que ça projette une autre société potentielle qui a quand même été, je pense, perçue par les forces réactionnaires depuis quelques décennies, qui en fait essayent complètement de nous empêcher d'aller au bout de la question. Papa, maman, enfant, ou travail, ambition, capitalisme, en fait, on se dit que quand t'es PD, t'as un autre devenir potentiel que celui-ci. Mais comme je pense qu'en fait, concrètement, quand t'es une personne hétérosexuelle, t'as d'autres futurs que celui que te propose la société contemporaine. Cependant, nous, comme on n'est vraiment pas nombreuses, c'est-à-dire qu'on est quoi, 5, 6, 7%, 8%, et ben en fait, on est tellement minuscule qu'en fait, nous, on peut avoir le luxe de se dire qu'on est capable, de notre point de vue, de proposer quelque chose de différent. Quand on est autant inspiré soi-même par ce qu'on vit, on a l'impression que ça devrait donner envie à tout le monde. Mais en fait, je pense que ça, c'est le propre de la foi ou l'illumination. Parce que dans toute idée que ce que nous sommes porte quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose de la folie, de toute façon, ou de l'illumination, je pense. De penser que PD égale fin du capitalisme, en fait, faut être un peu zinzin, quoi. Mais moi, j'y crois, quoi. Ça m'occupe, en tout cas.
Merci à Tim Madescler, à Bigora, à Tori Cantero, au collectif La Théière, à PD La Revue, à Tariq Safraoui, à Guari, à Micha et Duchesse et à Marguerite Lelouvier. Lecture, Martin Dust et Nance Laborde-Journa. Prise de son, Gilles Gallinaro et Guillaume Ledu. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Pierre Pinot. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau. PD, réinventer le monde, écrire PD au pluriel. Un documentaire de Camille Desombre, réalisé par Gilles Blanchard. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.